Bonjour Christine Frérot. Nous sommes très heureux de vous accueillir entre Paris et Bordeaux à la librairie Mola. Vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste du Mexique, notamment des années 30 aux années 50. Vous êtes aussi chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi.
Vous avez été.
Et vous êtes aussi critique d'art et commissaire d'expo. Et donc, nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Une passion mélancolique selon Frida Kahlo, paru aux éditions Atelier Henri Dougier, dans la collection Roman d'un chef-d'œuvre. Le principe de la collection est de partir d'une œuvre d'un artiste pour découvrir sa vie et son œuvre. Donc, la première question que je m'envoie vous poser, c'est pourquoi, pour quelle raison avez-vous donc choisi ce tableau de Kahlo intitulé L'étreinte d'amour de l'univers, la terre, le Mexique, moi, Diego et monsieur Xolo. Je ne sais pas comment on prononce Xolo.
Xolotl. Bon, j'ai choisi ce tableau. Bien sûr, il y avait pléthore d'œuvres de Frida Kahlo, très connues, surtout ses portraits très emblématiques, magnifiques, où elle pose vraiment presque comme si elle était photographiée. Mais ses portraits ne disaient pas grand-chose, ne pouvaient pas être le point de départ suffisant pour vraiment développer quelque chose sur sa vie. Donc, j'ai choisi ce tableau qui a pour intérêt aussi d'avoir été peint 4 ans et demi avant sa mort. Donc, c'est un tableau témoin, un peu témoignage, un peu héritage. Vous allez hériter de moi à partir de ce tableau. C'est un tableau quand même très emblématique parce qu'elle raconte, puisque là, elle rassemble tout ce qui a été le bonheur ou le chagrin ou la peine de sa vie. Mais en tout cas, au centre du tableau, il y a quand même un homme qui est tenu comme un enfant, qui est Diego Rivera, son mari. Et puis, il y a le Mexique autour, représenté par une végétation tropicale. Mais ce qui est intéressant, c'est la construction un peu pyramidale de ce tableau, avec une triple mise en abîme, puisque Frida Kahlo tient Diego Rivera dans ses bras, qui est vu comme un enfant, un adulte enfant. Et puis, elle-même, elle est tenue dans les bras d'une sculpture précolombienne, et la sculpture précolombienne et le tout est tenue par les bras du jour et de la nuit. Donc, tout ce tableau est à ses pieds, au pied de Frida Kahlo, enfin, à ses bas. Il y a un chien, de ces chiens sacrés, les Xolot Exquincle, qui étaient les chiens sacrés sans poils. Et il y a ce chien qui est là, comme un gardien aux portes de la mort, enfin, qui doit lui permettre de traverser ces derniers moments jusqu'à la mort. Donc ce tableau, voilà, je l'ai trouvé très intéressant, et c'est son dernier grand tableau. Elle n'a pas peint, il fait à peu près 70 cm, elle n'a pas peint de grand tableau après ça, elle n'a pas peint non plus d'autoportraits flamboyants, comme elle avait peint, bien sûr, une grande partie de sa vie. Et c'est pour cette raison aussi que je l'ai choisi. Et là, je dois reconnaître que c'est l'éditeur, Henri Dougier, quand je lui ai présenté le projet, qui m'a suggéré, pourquoi ne vous mettez-vous pas dans la peau de Diego Rivera? Alors j'ai trouvé assez surprenante l'idée, mais j'ai trouvé qu'il avait entièrement raison, puisque le tableau est autour de lui aussi. Il est centré sur lui. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Sans être romancière, hein, le roman d'un chef-d'œuvre, sans être vraiment romancière. Mais c'était un challenge, un défi pour moi. Et voilà, donc j'ai lu quand même pas mal, et notamment les lettres de Frida Kahlo. Et ces lettres que je n'avais jamais lues, qui ont été éditées en français il y a 7 ou 8 ans, sont passionnantes. On apprend énormément de choses sur elles. Et j'ai lu aussi, enfin, parmi d'autres écrits, une autobiographie de Rivera, qui, elle, n'a jamais été traduite en français. Et à partir de ces lectures et d'autres lectures, bien sûr, d'historiens de l'art, de romanciers, de poètes, surtout en français, parce que je voulais donner une bibliographie en français, mais j'ai donné aussi 2 livres en espagnol très importants, très intéressants. J'ai donc lu quand même pas mal sur elle avant de me lancer dans ce défi. Se mettre dans la peau d'un homme, et d'un homme comme Diego Rivera, c'est pas n'importe qui.
Justement, vous savez, c'est autant un livre sur Frida Kahlo que sur Diego Rivera, effectivement. Oui. Alors, comment on pourrait qualifier leur relation?
Alors, justement, c'est une... quand on entre dans leur... Moi, je n'ai pas voulu entrer dans leur vie privée, si vous voulez, à la façon d'une romancière. Je ne suis pas romancière, mais en tant qu'historienne, j'ai voulu avoir un ton assez juste aussi sur leur relation, sans être triviale, sans rentrer dans leurs problèmes. Il fallait bien quand même un peu parler de leur vie amoureuse, parallèle, extra-conjugale, parce que ça a fait partie des symptômes de leur relation, très particulière, faite probablement d'amour, de sexe, je ne sais pas, bon, probablement quand même aussi, malgré les difficultés probablement qu'elle pouvait avoir après son accident gravissime quand elle avait 18 ans. J'ai essayé de trouver la justesse du ton de Diego quand il parle d'elle. Et il parle d'elle avec beaucoup d'admiration. C'est ce qu'on voit dans ce qu'il a pu dire sur elle. Il admire et elle l'adore. Dans ce qu'elle dit sur l'amour qu'elle a pour lui, c'est sa vie, il est sa vie, il est même au-delà de sa vie, il est plus grand que sa vie. Elle le dit, je ne me souviens pas de la citation exacte que j'ai mise à deux reprises dans le livre, mais c'est ça, c'est toute sa vie et c'est plus que sa vie. Donc elle est quand même dépendante affectivement de lui, mais lui, c'était un homme, on ne disait pas dragueur, ce n'est pas le terme du tout qu'on pourrait employer. Mais c'était un homme qui aimait les femmes, amateur de femmes, alors qu'il était très laid. Il était vraiment très, très laid, énorme, avec un visage... D'ailleurs, lui-même disait qu'il avait une tête de crapaud. Donc, leur amour était fait d'amour, d'amitié, d'admiration et de partage aussi, de partage d'intérêt pour leurs œuvres réciproques. Ils se congratulaient beaucoup là-dessus. Elle venait voir ce qu'il faisait, il venait voir ce qu'elle faisait. Et j'ai démarré avec ce tableau en imaginant qu'elle l'appelait, puisqu'à ce moment-là, leurs ateliers étaient séparés à Mexico. Elle était revenue vivre dans sa maison familiale, à la Villa Bleue, la Casa Azul. Et lui était resté dans cette maison moderniste qu'ils avaient fait construire dans les années 30. Donc j'imagine qu'elle l'appelle pour lui dire « Que penses-tu de ce tableau ?» Et ce tableau... montre leur histoire aussi, leur histoire d'amour et de peine et de chagrin, peut-être plus pour elle que pour lui. Ils étaient jaloux l'un de l'autre aussi, ce qui est absolument incroyable. Enfin, ils étaient jaloux, mais d'après ce que j'ai pu lire, ils préféraient ne pas vraiment savoir ce que faisait l'autre. Mais ils finissaient par l'apprendre, forcément, puisque souvent, c'était des gens de leur entourage. Ne reste que Trotsky... Alice Raon, qu'elle connaît à Paris en 1939, Trotsky aussi, plus tard. Donc, je pense que c'est une histoire. C'est pour ça les historiens de l'art, peut-être, se sont moins intéressés à leur vie amoureuse et leur vie conjugale que ceux qui ne s'intéressent moins à l'art. Et ce qui a été monté en épingle depuis des années, c'est ça. Presque plus que la peinture, au fond, et tous ces petits tableaux qui sont des petites scénettes de ses souffrances et de l'amour qu'elle a pour lui, la diffusion de l'œuvre de Frida Kahlo s'est faite surtout autour de ce qu'elle était comme femme magnifique, parée, magnifiquement parée, mexicaniste au dernier degré, en dehors de toutes ses souffrances, bien sûr, de toute sa vie aussi, de femme libre. C'était une femme libre.
Mais dépendante.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de féministe. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qui est tout à fait adéquat pour elle. Bien sûr qu'il y avait des féministes au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe. Mais je pense qu'elle, c'était plutôt une femme libre. Elle ne s'intéressait pas aux autres femmes. Frida Kahlo, dans toute sa correspondance, ne dit jamais un mot sur les autres femmes. Une féministe revendiquerait aussi, peut-être de façon plus large, sa condition de femme, alors qu'elle s'intéresse à elle-même. C'est elle-même, elle s'intéresse à elle. Elle est centrée sur elle. Elle veut séduire. Elle veut absolument séduire, pas seulement lui, Rivera, mais séduire le monde entier. Donc Il y a ces sortes de contradictions dans leurs relations, ces oppositions, ces trahisons. Mais il y a cet amour qui a perduré jusqu'à la fin. Même si vers la fin, et je le dis dans mon livre, il a voulu la quitter. Alors que c'était après ce tableau, c'est au moment de ce tableau, juste après. Il a voulu la quitter pour Maria Félix, l'actrice Maria Félix. Donc, je n'ai pas fait dire... Et bon, il a voulu la quitter, il lui a dit, je vis avec Maria Félix. Il a été vivre avec Maria Félix. Et Maria Félix l'a foutu à la porte au bout de 3 semaines. Donc, il est revenu avec Frida Kahlo. Mais Frida Kahlo a quand même fait une tentative de suicide à ce moment-là. Donc, je crois qu'elle était... Elle était quand même à fleur de peau de cet amour avec lui. Et elle souffrait beaucoup de ça. Elle souffrait beaucoup de ça. Et tout, c'est dans ses lettres, on le voit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de dépendance. Comme il y avait une dépendance économique. Frida Kahlo n'a pas été connue de son vivant, comme l'était bien sûr Diego Rivera. Ça n'avait rien à voir. Elle a fait une exposition quelques mois avant sa mort. Sa seule exposition au Mexique. Elle a exposé aux États-Unis et à Paris dans une collective. C'est tout. Donc, le moteur, quand même, le moteur, c'était lui, quelque part. Mais c'était une femme avec une personnalité énorme. Sinon, il n'aurait pas épousé. Il n'aurait pas été séduit par elle.
Il partageait aussi un idéal communiste, parce qu'à un moment, vous dites qu'elle a déclaré la seule façon de devenir un homme, je veux dire un être humain et pas un animal, c'est être communiste. Donc il y a quand même une... Oui. Voilà. Et comment
pouvait... Oui, comment c'est ça. Il avait adhéré avant elle, bien sûr, puisque quand elle l'a connu, il était déjà au Parti communiste. Et puis, elle adhère, quand elle l'épouse, après, elle adhère au Parti communiste. Est-ce qu'elle avait déjà des idées autour de ça quand elle était jeune, adolescente? Je ne sais pas vraiment, je ne saurais pas le dire. Alors après, bien sûr, par ses limites physiques, elle ne peut pas avoir une capacité extraordinaire de manifester, de se déplacer tout le temps. Mais lui-même dit qu'elle aurait été probablement une meilleure militante que lui, parce que lui, je lui fais dire dans le livre, il vient entre communiste stalinien pur et dur à Trotsky, et pour revenir ensuite à la fin de sa vie à Staline, au communisme, puisqu'il va faire soigner son cancer à Moscou quelques mois avant de mourir. Alors, oui, elle, je crois que ça traverse beaucoup, pas son œuvre, hein, pas son œuvre, à part les deux derniers portraits qu'elle a fait de Staline, qui sont évidemment sans aucun intérêt, mais enfin, le seul intérêt de savoir qu'elle les a fait aux portes de la mort. Lui était le moteur, évidemment, politique aussi. Elle n'a jamais fait de tableau politique. Moi, je pense qu'elle était dans une espèce d'idéalisation totale de ce que c'était le communisme. D'ailleurs, quand elle a fait ses déclarations après son séjour à Paris, elle mélange un peu tout entre Hitler, Staline, les Français, qu'elle traite de... Enfin, avec des termes d'une violence et même assez grossiers sur les Français, sur les intellectuels, les artistes. Enfin bon, elle est très, très dure. Et tout ça vient un peu d'une espèce de posture politique, et elle est peut-être un peu comme lui, qui après avoir vécu en France près de 10 ans, après avoir vécu en Espagne, en France, avoir voyagé en Europe et être rentré au Mexique, fait des déclarations aussi tonitruantes sur la France, l'Europe, c'est fini, moi je suis américain. Il tourne le dos complètement, et je pense que elle aussi, au fond, elle n'avait jamais été en France, donc sa posture politique reste, mais elle tient quand même à quelques mois de sa mort à manifester avec lui dans les rues de Mexico. Elle est sur une chaise roulante, donc bon, elle veut jusqu'à son dernier souffle, elle veut montrer quand même qu'elle a une conscience politique. Elle ne peut pas être une militante pure et dure, mais Elle a une conscience sociale, probablement sociale et politique, mais qui n'est pas dans son art, bien sûr. C'est pas son engagement, enfin son engagement entre guillemets, reste plus intellectuel, émotionnel, probablement affectif, que dans le dur d'un véritable engagement. Mais enfin, lui, finalement, c'est pas. Ça reste très douteux, quoi, son engagement.
Vous, justement, vous parlez de son œuvre, mais comment naît sa vocation artistique à Frida Kahlo?
Tout le monde sait qu'elle voulait être. Elle faisait des études de médecine quand il y a eu cet horrible accident où un tramway est rentré dans un autobus. Et donc, elle a été blessée de façon atroce. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc, elle va être alitée pendant des mois, hospitalisée d'abord, des mois d'hôpital, ensuite chez elle pendant un an, pratiquement tout le temps alitée. Et c'est là que lui vient, peut-être suscité par sa mère ou par son entourage, elle demande effectivement des crayons. Sa mère lui place un miroir au-dessus de son lit à baldaquin et elle commence à se dessiner elle-même, puisqu'elle ne peut pas bouger pratiquement. Elle commence à se dessiner elle-même. Et c'est là que probablement tout va commencer. Et c'est là qu'elle a probablement connaissance aussi. Elle avait même, avant d'avoir cet accident, elle avait quand même été voir Diego Rivera. Elle avait 14 ans. C'était une petite écolière en uniforme. Vous savez, à Mexico, même aujourd'hui encore, dans l'école primaire, secondaire, je ne me souviens plus très bien, mais à l'école primaire, les enfants ont des uniformes. La petite jupe bleu marine, un chemisier blanc, etc., etc. Jusque dans les campagnes les plus reculées, où même les enfants indiens ont l'uniforme sans avoir de chaussures aux pieds. Vous voyez, c'est moi, ça m'avait. Je pense que ça doit toujours exister. Enfin, ça, c'était un souvenir assez ancien. Donc, elle est petite écolière et elle va voir Diego Rivera en train de peindre un de ses premiers muraux à Mexico. Donc, elle va le voir, elle l'interpelle sans dire qui elle est. Elle ne donne pas son nom, elle dit rien du tout. Et elle va revenir 7 ou 8 ans après, elle a 20 ans, après l'accident, elle revient le voir. Et là, elle veut lui montrer ce qu'elle peint, qu'elle a commencé à peindre. Bon, je pense qu'elle a commencé déjà à pouvoir probablement se mettre debout, à être assise. Elle commence par des portraits et par son autoportrait. Oui, son autoportrait aussi, son premier autoportrait qu'elle avait dédié à celui qui était son petit ami pendant l'accident et puis qui finalement l'aura toujours suivi, mais la lâche. Enfin, finalement, il a peur. Il la voit complètement cabossée, il a peur. Donc, elle va voir Diego Rivera, elle veut que Diego voie ses peintures. Et probablement, c'est l'encouragement. Et donc, elle l'invite à venir chez elle. Et c'est probablement l'encouragement de Diego, qui est un homme reconnu déjà. Il a 20 ans, 21 ans de plus qu'elle. Bon, il est excessif dans tous les sens du terme. Il est énorme, il pèse 130 kilos, 120 kilos. Il a une voix tonitruante. Il a un aura absolument extraordinaire, hein, bien sûr. Il le racontait lui-même, hein, que quand il était à Paris, tout le monde l'écoutait, tout le monde se taisait pour l'écouter, même s'il racontait des blagues. Donc, il va avoir ce pouvoir très vite sur elle, mais il va l'encourager à peindre. Donc, je pense que c'est là aussi que lui joue un rôle important aussi dans ses débuts de peintre. Même si elle ne va pas du tout suivre, elle est un peu influencée par lui dans cette figuration, quand même très, très proche du réel, enfin au début, hein, elle veut être le plus proche du réel dans ses portraits, donc elle le suit quand même, ce qu'il est devenu, lui, après ses années de cubisme, il est devenu réaliste et idéalisé dans sa peinture. Donc je pense que lui, oui, il a un rôle important, et elle va se défaire de son influence et commencer à peindre ce qui l'intéresse. Donc elle-même, peint ce qui l'intéresse et elle-même.
Justement, pourquoi il y a autant d'autoportraits dans son œuvre? C'est énormément.
Pourquoi il y a autant d'autoportraits? Parce que je pense qu'elle est dans une espèce de mise en scène. Il faut qu'elle puisse échapper à ces souffrances permanentes, physiques qu'elle a. Je ne parle pas des souffrances morales qu'elle peut avoir avec la trahison de Diego, mais ces souffrances physiques. On dit qu'elle a eu plus de 30 opérations, des corsets qui sont exposés actuellement à Paris, au Palais Galliera, des corsets, elle en a eu plusieurs. Bon, à la fin de sa vie, on lui coupait la jambe, donc elle a eu une prothèse. Puis elle avait eu la poliomyélite. Avant son accident, la poliomyélite, donc elle avait une jambe aussi plus atrophiée. Donc, elle a besoin pour éloigner, pour ses souffrances, enfin, pour les faire disparaître de sa vie, de cette mise en scène, de cette théâtralisation d'elle-même, hein, et de cette séduction qu'elle sait qu'elle provoque. Donc elle se pare, il raconte, lui, c'est lui qui raconte que quand elle était à l'hôpital, elle passait des heures à se maquiller, elle se faisait teindre les cheveux, elle ne pouvait pas affronter le regard des autres sans être une autre, qui était elle-même aussi. Une autre parée, séduisante, magnifique, une espèce d'icône mexicanisante ou mexicaniste, comme disent les Mexicains en espagnol. Une icône mexicaine. Et je pense que vous avez dû remarquer que dans ces autoportraits, ils sont une part très importante, je ne me souviens plus de la proportion exacte, hein, de son œuvre. Elle a peint aux environs de 250-270 tableaux en tout. C'est donc une production assez pas très importante. Pas très importante, mais elle a peint pendant 20 ans, c'est tout. Et les autoportraits sont là-dedans, je crois, les deux tiers, hein, à peu près. Et dans ses autoportraits, elle ne sourit jamais. Elle est hiératique, presque toujours dans la même position. C'est-à-dire, son visage est de face, le reste de son corps, enfin le peu de son buste que l'on peut voir, est souvent un peu déplacé. Elle tourne à peine la tête, mais c'est toujours frontal et elle regarde le regardeur, comme disait Marcel Duchamp, elle regarde le regardeur dans les yeux. Elle lui dit « Regarde-moi ». Elle a cette force qu'elle a de persuasion qui a séduit probablement Diego quand elle est venue le voir, qu'il était sur ses échafaudages et qu'il est descendu. Elle l'a interpellé, il est descendu. Et c'est là qu'elle a dit son nom. Donc je pense que ce regard qu'elle a, très, 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 très enflammé, très fort, très puissant, noir, a dû aussi le séduire. Et je pense qu'avec ce regard, elle veut aussi séduire ceux qui la regardent.
Et notamment. Et
ce qui est intéressant, ce qui était intéressant, c'est qu'on ne trouve pratiquement pas de photos. Elle s'est beaucoup faite photographier, Frida Kahlo, énormément. 90% de ses photos sont des mises en scène. Il y a très rarement, il y a quelques photos, elle a les cheveux défaits. Mais comme dans sa peinture, c'est très rare. Elle a toujours les cheveux relevés, des nattés avec des rubans. C'était très mexicain, les rubans qui entrelacés dans les nattes. Mais dans le tableau que j'ai choisi, justement, elle a les cheveux déliés, là. Comme si elle avait renoncé dans cette séduction qui a marqué les années de sa vie, quoi. Les 47 ans de sa vie, enfin les 47 ans... Elle est morte à 47 ans.
Justement, oui, ce regard, effectivement, il y a énormément de grands photographes qui l'ont photographié. Il fait Weston, Mododi, enfin voilà, donc c'est le même rapport, oui, à l'image. Ça.
Elle a capté, elle raconte, Diego le raconte, mais je le raconte moi par la voix de Diego. Son père a passé sa vie à se photographier, comme un autre grand peintre qui est mort, mexicain et graveur, qui s'appelait José Luis Cuevas, qui a vécu à Paris. Bon, c'est tous ces artistes qui sont venus dans les années 60. Cuevas, qui a passé sa vie, comme d'autres artistes, un artiste américain dont j'ai oublié le nom, à se photographier tous les jours. Et le père de Frida Kahlo, qui était photographe d'ailleurs, se photographiait. Donc il y a énormément de portraits, d'autoportraits de son père. Donc il a photographié aussi et il lui a appris probablement à savoir se comporter devant le photographe. Donc Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, qui a été la première femme du grand photographe Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, qui était elle-même qui était photographe, c'est elle qui doit d'ailleurs organiser son unique exposition à Mexico peu de temps avant sa mort. Donc il y a ces photos très belles de Lola Álvarez Bravo. Il y a les photos de son amant, celui qu'elle a probablement le plus aimé en dehors de Rivera, d'un autre amour. Il était plus jeune, il était beau, il était photographe. C'était un Américain qui s'appelait Frédéric Murray. Et là, il était jaloux, là, Rivera. Il était jaloux pour Trotsky. Il était quand même jaloux parce qu'il avait face à lui, des rivaux qui étaient quand même intéressants pour des plans différents, mais donc Frédéric Meuret qui était jeune et beau. Donc, il a fait beaucoup de photos d'elle très belles de Frédéric Meuret et de Frida Kahlo, où on sent qu'il y a une relation là très forte entre le photographe et elle. Enfin, c'est ce que j'ai moi observé en regardant ses photos, qu'elle a l'air apaisée dans ses photos. Elle pose bien sûr, mais on sent le lien fort qui les unit et l'amour qui les unit. Et on le sent dans ses photos, le regard qu'elle pose sur le spectateur, sur lui et sur celui qui regarde. Donc c'est une femme aguerrie à être vue, à être très aguerrie à ça.
Et est-ce qu'elle a pratiqué
comme une défense, hein, comme une sorte de défense.
Est-ce qu'elle a pratiqué la photographie, à ce qu'on le sait, ou elle a pas du tout.
Elle, est-ce qu'elle est non, j'ai pas l'impression non qu'elle est non. Elle n'a pas, j'ai pas l'impression non plus, enfin dans ce qu'on connaît d'elle, qu'elle ait utilisé des photos, fait des collages. Alors, ce qui est intéressant, c'est son journal. Son journal, le fac-similé a été reproduit ici en France avec une préface de Carlos Fuentes, l'écrivain Carlos Fuentes. Et il est très intéressant, le journal aussi, pour connaître Frida Kahlo. Ce journal qu'elle a commencé 10 ans avant sa mort, à peu près 13 ans avant sa mort, où elle dit énormément de choses là-dedans. Il y a des choses très spontanées. Hein. Elle jette là des choses spontanées, politique, Diego, la peinture, le Mexique, la tout y passe là-dedans. Donc, mais c'est vraiment très intéressant sur le plan graphique, sur le plan. Elle y fait aussi des projets. Elle y fait des projets de ce que vont être ses peintures ensuite. On trouve certains projets dessinés là-dedans. Mais c'est plutôt quand on regarde ce journal, on a plutôt l'impression de quelque chose de vivant, de spontané, de c'est pas un journal où on écrit tous les jours ce qu'on fait. Non, là on y met sa rage, son amour, son désespoir. C'est ça, c'est le journal. Donc là, il me semble que par moment peut-être il y a des collages. Je me souviens plus très très bien là-dedans. Il y aurait peut-être des collages, des choses découpées qu'elle aurait collées. Je m'en souviens plus très très bien. Mais en tout cas dans sa peinture, non, il n'y a pas d'inclusion de photos ou non.
On a évoqué la mexicanité, aussi la mode de Frida Kahlo. Est-ce qu'on pourrait dire que la manière de s'habiller de Frida Kahlo est un acte politique?
Oui, moi je pense que c'est un. Oui, je pense que c'est un acte. Vous avez raison de le dire. Ça n'est pas un acte seulement de esthétique ou non. C'est un acte politique parce que ce monde indien, que cette génération, toute une classe d'intellectuels et d'artistes, après la révolution de 1910. À partir des années 20, il va y avoir toute une revendication liée à ce monde indien qui a été complètement écrasé, oublié, puisque précédant la révolution, il va y avoir une dictature d'un président qui est d'ailleurs enterré à Paris, hein, au cimetière Montparnasse, si vous voulez aller sur sa tombe, Porfirio Diaz, qui a été considéré comme un dictateur, qui était une sorte de dictateur francophile, pas pour rien qu'il est enterré à Paris. Et le monde indien n'existait pas. Ce qui intéressait la classe, l'élite, ou la classe politique, l'élite, c'était la France. Il y avait une francophilie exacerbée au Mexique jusqu'à la Révolution. Et après la Révolution, donc, on aimait. D'ailleurs, tout ça se voyait dans l'Académie des Beaux-Arts de Mexico, où les professeurs que l'on faisait venir étaient soit français, soit italiens, soit espagnols. Donc le modèle esthétique, c'était l'Europe, l'art grec. Enfin, c'est ça. C'était pas du tout le monde indien qu'on prenait pour modèle. Ça a commencé à la fin du 19e. Il a commencé à y avoir effectivement des artistes, la deuxième moitié du 19e siècle, qui ont commencé à se tourner vers ce monde indien. Mais tout ça a pris, est devenu plus important. Enfin, c'est concrétisé après la Révolution avec ce mouvement de muraliste qui est né dans les années 20 sous les auspices gouvernementaux, d'ailleurs avec une sorte de ministre de l'éducation qui était le ministre de la culture, qui était le ministre de l'éducation de l'époque, qui était un écrivain qui était beaucoup plus tourné vers justement vers la philosophie grecque que vers un monde révolutionnaire. Mais il a permis quand même, ça y est, son nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire, il a permis quand même aux artistes de développer ce qu'ils voulaient sur les murs. Et ce que développaient ces artistes, pas seulement Diego Rivera, c'était le monde indien. Ce monde indien. Et Frida Kahlo, la façon dont elle s'habillait exclusivement, pratiquement exclusivement, avec le type d'habillement d'une région du Mexique, du sud du Mexique, qui s'appelle la région de Tehuantepec. Et donc, elle s'habillait en Tehuana, la région de Tehuantepec, qui est vraiment au sud, avant la région des Chiapas et avant le Guatemala. Donc, c'est une région, l'isthme de Tehuantepec, c'est une région très chaude, très ventilée, où on dit que les femmes, on disait à cette époque qu'il y avait une sorte de matriarcat. Donc, elle s'habille presque exclusivement dans cette mode de cette région de Tehuantepec, qui est très caractéristique, quand elle se reproduit avec une sorte de corolle autour de la tête plissée, qui est justement la coiffe des mariés de la région de Tehuantepec, les robes à volants avec certains types de volants, les huipiles, qui étaient ces sortes de chasubles courtes ou longues, mais courtes à Tehuantepec, elle met aussi, elle en a des quantités. C'est un acte politique. Bien sûr, c'est très beau en même temps. Esthétiquement parlant, c'est très beau. Je crois que c'est lors de son exposition à Paris, ce qu'avait dit Kandinsky. Kandinsky n'avait vu, il avait vu surtout Frida Kahlo plus que la peinture. Même s'ils avaient pu dire, pas lui, hein, que c'était très surréaliste, alors qu'elle n'a jamais revendiqué aucun du tout le surréalisme. Kandinsky, lui, ce qu'il avait vu, c'était surtout cette mexicanité qu'elle portait comme ça fièrement. Donc oui, vous avez raison, c'est un acte politique, et puis ça devient quand même autre chose aussi, bien sûr. Mais tout ce monde indien qui était quand même écrasé et inconnu. Et juste pour continuer cette information, c'est dans les années 40 seulement qu'est créé l'Institut National Indigéniste à Mexico, où là, on va prendre en compte les cultures et le musée d'anthropologie de Mexico des années 50. Donc, vous voyez que ce réveil à ce monde indien, qui est quand même le monde qui a accueilli les colonisateurs, les Espagnols, il y a eu très peu d'immigration européenne au Mexique. Hein. C'est pas du tout un pays d'immigration comme l'a été l'Argentine, même le Brésil. Non, le Mexique n'a pas été un pays d'immigration. Ça a été une revendication probablement politique. Ça n'a pas été un pays d'immigration. Donc, ce monde indien est toujours resté comme ça, un peu à l'écart. Et là, après la Révolution et avec ses artistes, dont Rivera surtout, le monde indien est en majesté, exalté. Et on doit se battre. On doit se battre. La Révolution doit être une révolution agraire pour ce monde indien, sa culture. Ils étaient collectionneurs, tous les deux, et surtout Rivera, des collectionneurs d'art précolombien. Donc, il y a chez eux tout cet amour de ce monde qui a été occulté, caché. Ils vont essayer de le valoriser, et elle le valorise, elle aussi, comme ça, d'une certaine façon, à sa manière, bien sûr.
Vous avez parlé de la fascination de la France pour le Mexique. Enfin, justement, comment vous expliquez, en fait, la fascination exercée par le Mexique par les artistes, les intellectuels français, d'Antonin Artaud jusqu'à Le Clésio, en passant par Benjamin Perret, André-Pierre de Mandillarque. Donc, il y a une vraie fascination pour le Mexique. Comment vous l'expliquez?
Ah oui, il y a une vraie fascination qui commencera même très tôt. Qui commencera très tôt avec les cinéastes, aussi Hans Einstein. Il y a par exemple le peintre japonais, américano-japonais Noguchi, Isamu Noguchi, peintre qui a été très très connu, qui a fait une peinture murale politique. C'était c'était à la fois la politique qui attirait, et puis c'était ce monde indien. Qu'est-ce que venaient rechercher Cartier-Bresson et Paul Strand, l'Américain, et Edward Weston? Il y avait toute cette aura révolutionnaire, mais il y avait ce monde indien aussi, qu'on découvrait à peine. Et tout ce qui allait avec ce monde indien, c'était quand même le passé précolombien également. C'était les pyramides, tout ce qu'il y avait autour, la mythologie, les mythes, les musiques, bon, les littératures, moins, mais les musiques, les traditions, et c'est ça qui a attiré énormément d'artistes. Et puis le fait que le Mexique soit aussi avec une frontière avec les États-Unis, a fait aussi que le passage aussi par les États-Unis. Il y a des artistes qui sont arrivés par les États-Unis au Mexique, comme Alice Rahon, peut-être, dont je parlerai tout à l'heure. Alice Rahon et son mari étaient d'abord aux États-Unis et au Canada quand ils ont décidé, c'était en 39, la situation était devenait très dangereuse en France, il était juif, lui, ont décidé de venir au Mexique. Ils avaient connu Frida Kahlo à Paris, Roberto Matar, enfin, beaucoup d'artistes sont passés par, effectivement, par les États-Unis avant d'arriver là. Mais oui, ça a été un pays de grand attrait. Bon, Hans Einstein, ça a été quand même extraordinaire ce qu'il a réalisé au Mexique, même si on n'a pas vu tout ce qu'il a fait, puisqu'il a, il a été montré il y a quelques années au musée du Louvre, les rushs de son film, hein, du film qu'il a fait à Mexico, et qui n'a pas montré... voilà, on les a montrés au Louvre et c'était passionnant de voir le regard qu'il avait aussi sur ce pays. Quoi. Il se produisait vraiment un acte d'amour. Et moi-même, vous savez, je suis arrivée il y a 50 ans au Mexique. Donc j'étais jeune, j'étais étudiante, j'étais intéressée par ce pays, mais je ne savais pas tout à fait très bien pourquoi aussi. Puisqu'il y avait, c'était par l'information que je pouvais avoir en France. Et ces gens qui arrivent d'ailleurs dans les années 30 et 40, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Mexique. Ça reste encore très mystérieux. Il n'y a pas de grandes expositions comme il y aura à partir des années 50, les grandes expositions pratiquement tous les ans, des accords entre les gouvernements français et mexicains. Il y en aura une très importante dans les années 50, où il y aura à la fois de l'art précolombien, de l'art colonial, de l'art moderne. Donc ces grandes expositions n'existent pas quand tous ces gens vont là-bas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il y a eu un mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement inverse bien antérieur. Il y a les artistes mexicains et latino-américains sont arrivés dès la fin du 19e siècle à Paris. Donc ils ont aussi peut-être créé quelque chose. Il est peut-être resté de leur passage quelque chose que la génération suivante a capté, a perçu, a connu à travers ces pionniers latino-américains qui venaient à Paris. Mais il n'y avait pas une connaissance énorme, quoi. Ils allaient vers l'inconnu et je pense que c'est ça qui était excitant aussi.
Et puis un peu plus
la découverte.
Et un peu plus tard, effectivement, le Mexique était un refuge aussi, effectivement, pour les gens qui étaient évidemment pourchassés en Europe et qui sont réfugiés au Mexique aussi. Donc, on peut parler peut-être de Alice Rahon, puisque c'est une personne auquel vous avez consacré un livre et qui qui était une amie de Frida Kahlo. Et peut-être aussi, peut-être qu'ils ont peut-être eux aussi une relation amoureuse, on ne sait pas.
Oui, alors je me suis intéressée à Alice Rahon, curieusement, assez tard, puisque quand j'étais moi-même au Mexique, où j'ai vécu 10 ans, j'ai été étudiante là-bas et j'ai travaillé aussi pour l'ambassade de France, je n'étais pas intéressée par Alice Rahon. Quand j'étais moi au Mexique, elle était encore vivante, hein. Je connaissais son existence, j'ai vu sa grande exposition au musée, au Palais des Beaux-Arts à Mexico, qui était 2 ans avant sa mort. Donc j'avais trouvé intéressante, et moi c'est pas ce que je venais rechercher au Mexique, j'allais pas rechercher une Française qui peignait comme on peignait dans les années 50-60. En fait, c'est ce que je pensais moi, ou je la considérais comme cela. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à peut-être on s'identifie toujours un peu à l'objet de ces recherches, cette Française provinciale qui était de la région de Besançon, d'un petit village près de Besançon, cette Française qui était arrivée au Mexique sans connaître probablement énormément de choses. En 1939, avec son mari, un peintre surréaliste qui lui était connu, elle-même était poétesse, et appartenait au groupe de poésie surréaliste que réunissait André Breton dans son appartement chaque semaine, où il y avait d'ailleurs René Char et bien sûr des personnalités... Des poètes qui ensuite deviendront de très grandes personnalités poétiques. Donc elle est là, elle est dans ce milieu-là, mais elle ne peint pas à ce moment-là. À Paris, elle ne peint pas. Peut-être qu'elle dessine un peu. Bon, elle avait dessiné avec son père, donc elle n'est peut-être pas complètement étrangère à tout ça. Et puis elle a un mari artiste quand même. Et donc, ils décident de partir. Ils sont tous les deux intéressés, très intéressés par l'art pariétal. Donc, ils décident de partir au Canada, enfin, pour voir des peintures des Indiens aussi d'Amérique du Nord. Enfin, bon, ils partent là-bas et c'est à ce moment-là que la situation se dégrade en Europe. Et ils décident d'aller au Mexique, puisqu'ils avaient rencontré quelques mois auparavant Frida Kahlo, pas Diego Rivera. Elle était toute seule, Frida Kahlo, quand elle a exposé à Paris. Il l'avait rencontrée à Paris. Et oui, il est dit qu'elle avait eu Alice Rahon, qui devait aussi être bisexuelle, avait eu une histoire amoureuse avec Frida Kahlo. Donc, ce couple décide d'aller au Mexique et ils atterrissent chez Frida Kahlo et Diego Rivera. Et c'est là, à ce moment-là, deux ans après, très vite, elle va se mettre à la peinture, Alice Rahon, parce que écrire de la poésie dans une langue qui n'est pas celle du pays où elle est, probablement, ça devait un peu poser des problèmes. Donc, elle commence à peindre. Mais les premières peintures sont très influencées par Wolfgang Pahlen, sa première grande exposition. Mais à la différence de Frida Kahlo, bon, elle va très vite se détacher de l'influence de son mari, et elle va aussi d'ailleurs se divorcer de Wolfgang Pahlen. Mais à la différence de Frida Kahlo, elle va très vite exposer, elle, par contre. Et elle va exposer dans la galerie la plus importante de Mexico à l'époque, qui s'appelle la Galería de Arte Mexicano, qui existe toujours, une galerie qui existe toujours et qui est d'une des plus grandes galeries mexicaines internationales. Donc une galerie qui a presque 100 ans, qui avait été créée par une poétesse. Donc elle, Alice Rahon, elle va tout de suite exposer là-dedans. Et d'ailleurs, cette galerie s'intéresse aux artistes étrangers vivant au Mexique. Hein. Elle s'intéresse à ces artistes, ce qui est que d'ailleurs Diego Rivera, qui est aussi un des artistes de cette galerie, reproche à la directrice, qui dit mais enfin il faudrait plutôt exposer des artistes mexicains que ces Français ou autres qui viennent vivre. Il y avait Alan Glass, je crois, aux artistes surréalistes. Donc elle commence quand même assez rapidement à être connue. Elle va être connue au Mexique et aux États-Unis. Elle va exposer aux États-Unis, elle va être achetée par des marchands américains, puisqu'aujourd'hui, j'ai trouvé un certain nombre d'œuvres intéressantes dans des musées aux États-Unis, et elle a été achetée récemment, Alice Rahon, par le Art Institute de Chicago, qui lui a acheté deux œuvres. Elle a été achetée par un très grand collectionneur argentin, des plus grands collectionneurs latino-américains, Constantini. Donc, c'est une femme qui est morte en 87, il y a quand même très longtemps, et qui est en train d'être redécouverte, elle aussi. Alors, ce que j'ai constaté, bon, j'ai quand même étudié, je suis quand même historienne de l'art, donc je me suis intéressée à sa peinture, plus qu'à sa vie personnelle, mais à sa vie personnelle aussi, bien sûr. Mais sa vie personnelle n'est pas perceptible aussi, bien sûr, n'est pas visible même, de façon évidente, du tout, comme elle l'est dans l'œuvre de Frida Kahlo. Elle est plutôt, elle, dans une sorte de poésie, de paysage poétique très intérieur, qui a quelque chose à voir, pour moi, beaucoup plus avec... qui n'a pas à voir avec le surréalisme complètement. D'ailleurs, elle n'a jamais... On l'a toujours, Alice Rahon, on l'a en permanence exposée. Et toutes ces dernières expositions, on l'expose qu'avec des femmes et des femmes surréalistes. Alors, féministe, elle n'était pas vraiment non plus. Hein, elle est pas, je ne vois pas pourquoi on la taxe de féministe. On veut que toutes les femmes soient des féministes. Bon, sa peinture ne montre pas du tout qu'elle l'est. Ou même sa vie personnelle. Alice Rahon, je n'ai trouvé aucune... Il y a assez peu de choses sur elle, évidemment, puisqu'il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il y a des articles, il y a eu des articles de presse. Il y a eu un article intéressant aux États-Unis dans une revue, un peu plus fouillé, mais il n'y a rien sur elle. Il y a très peu d'articles de journaux au Mexique. Donc, qui elle était, qui elle côtoyait, Alice Rahon, probablement le milieu intellectuel et artistique mexicain. Mais pas du tout celui de Diego Rivera et de Frida Kahlo. Elle était plutôt avec les surréalistes, ceux qui étaient liés au surréalisme, comme par exemple ces deux artistes peintres très connus, Leonora Carrington, l'anglaise, Remedios Varo, l'espagnole, qui sont arrivés à peu près au même moment que Alice Rahon, des femmes importantes dans la peinture et l'écriture pour Leonora Carrington. Alors elle était plutôt, bien que je n'ai trouvé aucune photo, je n'ai trouvé aucune déclaration d'Alice Rahon, elles se connaissaient, est-ce qu'elles étaient amies? Je n'ai pas l'impression qu'elles aient pu être amies. Donc Alice Rahon, c'était une sorte de solitaire aussi dans sa peinture. Je pense qu'elle était... Donc en faire absolument... Elle a quelques objets surréalistes. Elle a effectivement quelques objets surréalistes. Mais en faire une surréaliste, non, je ne trouve pas du tout qu'elle le soit.
Oui, comme Frida Kahlo n'était pas...
c'est une découverte intéressante. C'est une peinture d'introspection plutôt abstraite, enfin. Bien qu'elle ait... Elle a d'ailleurs fait... Elle a une très belle peinture qui, malheureusement, n'est pas très bien reproduite dans mon livre, qu'elle a réalisée après la mort de Frida Kahlo, qui s'appelle « La balade de Frida Kahlo », et qui se trouve au Musée d'art moderne de Mexico. Le Musée d'art moderne possède 3 œuvres d'Alice Rahon, alors qu'il n'en a qu'une de Frida Kahlo. C'est quand même intéressant. Il a une seule œuvre de Frida Kahlo, bien sûr emblématique, hein, les deux Frida, où elle est... De Frida assise là, qui est très connue, alors qu'Alice Rahon, elle a 3 toiles, très belles toiles. Ce musée a 3 très belles toiles. Et la balade de Frida Kahlo, elle a mis 5 ans à Alice Rahon pour faire ce tableau. Frida Kahlo est morte en 57, je crois, ou en 54.
54.
Non, en 54. En 54. Et Alice Rahon avait commencé ce tableau en 52, elle l'a terminé en 57. C'est ce tableau qui s'appelle « La balade de Frida Kahlo » et qui est un très, très beau tableau, assez onirique, mais avec aussi des éléments figuratifs. Elles habitaient le même quartier qui était dans les années 40, un village. Coyoacán était un village. C'est resté d'ailleurs un très joli quartier du sud de Mexico avec de très jolies ruelles. Et donc, elles habitaient ce quartier où il y avait probablement une vie populaire avec les roues, tout ce qui est du cirque et tout ça. Et elles adoraient ça, probablement. Et c'est ça qu'elle a peint dans son... Alice Rahon, dans ce tableau, La balade de Frida Kahlo. C'est un très, très joli tableau, mais qui reste très impressionniste, si vous voulez. Enfin, entre guillemets, impressionniste, hein, bien sûr. Pas le mouvement impressionniste.
Pour revenir à Frida Kahlo, peut-être une dernière question, c'est comment elle est devenue une icône féministe, voire une icône queer, aujourd'hui? Comment vous l'expliquez?
Une icône queer, alors écoutez... J'ai même entendu parler, moi, d'éco-féministe. Alors, j'ai trouvé quand même que c'était extrapoler beaucoup, quand même, le rôle de cette femme. Bon, et si ce qu'elle peint... Moi, je pense que c'était une femme libre de son temps, dans son temps, et libre avec des guillemets. Qu'aurait été Frida Kahlo si elle n'avait pas eu cet accident tragique pour ce qu'elle est, sa personnalité, le corps, ce corps qu'elle a eu quand même très, très abîmé? Même si elle a été très bien esthétiquement, elle s'est quand même fait prendre en photo nue, Frida Kahlo. Il y a des photos d'elle nue, alors qu'elle ne s'est jamais laissée peindre nue par Diego Rivera, elle s'est laissée reproduire nue. De là, enfin, de sa peinture, où elle parle de ses tragédies, d'une façon parfois d'une violence, avec des choses du sang, enfin... Très dur. Alors, en quoi elle serait féministe? Elle serait féministe parce qu'elle avait sa vie, propre, sa vie érotique, sexuelle ou sentimentale, affective, en dehors de lui. Est-ce que c'est ça, être féministe? Je n'en sais rien. Moi, je pense que c'était une femme libre qui faisait les choses dont elle avait envie. C'est plutôt... Voilà, Alors, une proto-féministe, une pré-féministe, j'en sais rien, peut-être, hein, bien sûr. Mais les étiquettes d'aujourd'hui, non, je crois qu'elles sont à côté de la plaque, hein, pour moi. Les étiquettes d'aujourd'hui.
OK. Ben, merci.
Voilà.
Merci à vous.
Mais je vous en prie.
Ce moment. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.